La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans LDTC, les décroissants tout chauds. Aujourd'hui, Lola et moi, nous vous lisons des extraits de deux livres autour de la question des pesticides.
Attends, attends, on ne pourrait pas expliquer ce que c'est un pesticide?
Ben oui, Lola. Allez, on t'écoute.
Un pesticide est une substance chimique utilisée pour tuer, repousser ou contrôler les organismes considérés comme nuisibles, tels que les insectes, les mauvaises herbes, les champignons, les bactéries et certains animaux. Les pesticides regroupent donc les herbicides, les fongicides, les insecticides et les biocides divers. Par exemple, les souricides, les raticides, les antiparasitaires.
Ça fait beaucoup de cides tout ça. Merci Lola. Et le monde devint silencieux. Comment l'agrochimie a détruit les insectes est un livre de Stéphane Foucard paru aux éditions du Seuil en 2019. Stéphane Foucard est journaliste au Monde où il couvre les sciences de l'environnement. En exergue de son livre, une phrase de Charles Baudelaire, éloquente, « Nous périrons par où nous avons cru vivre ». Il suffit d'avoir un peu plus de 30 ans pour sentir que quelque chose a changé, que quelque chose manque autour de nous. Souvenez-vous de la route des vacances. Jusqu'au début des années 90, il était impossible de traverser le pays en voiture sans devoir s'arrêter toutes les 2 heures pour éclaircir le pare-brise. Quelle que soit la route, quel que soit le trajet, des myriades d'impacts d'insectes maculaient bien vite les vitres et la calandre. Papillons, bourdons, sirfs, guêpes, diptères de toutes sortes s'écrasaient sur les voitures et les camions. Cette vie bourdonnante s'est comme évaporée. À la fin des années 2010, nous pouvons traverser le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou les États-Unis de part en part. Les calandres de nos automobiles sont obstinément propres. Cette disparition s'est produite en silence. Dans un laps de temps si bref qu'à l'échelle de l'histoire de la vie, il n'est qu'un battement de cils. Et même si la conversation et le débat public ne s'attardent guère sur cette absence, chacun de nous, lorsqu'il en prend conscience, ressent viscéralement qu'elle est le signe d'un inquiétant dysfonctionnement de notre relation au monde. Comment penser à l'effondrement des insectes sans ressentir une profonde et insaisissable gêne ?
C'est la fin du bourdonnement souverain du monde.
Souverain parce qu'il règne sur nos souvenirs, sur les images que nous conservons de ce qu'était et doit être un paysage d'été. Souverain aussi parce que ce bruit de fond, cette bande son de l'histoire de la planète, est l'empreinte sonore de ce monde minuscule et méprisé, mais dont l'existence est l'une des conditions au maintien de la vie. Sans ces multitudes de bestioles grouillantes et bourdonnantes, il n'y a plus les oiseaux, les poissons, ni aucun des animaux qui s'en nourrissent. Il n'y a plus les plantes à fleurs, sauvages et domestiques, dont ils permettent la reproduction par la pollinisation, cette incroyable et accidentelle trouvaille de l'évolution. Ce qui s'étiole et disparaît sous nos yeux, c'est ce qui permet à tout le reste d'exister. C'est le carburant, c'est le tissu même de la vie. Pour conjurer le malheur, nous aimons parler des choses incommodantes au futur. Toujours voir l'obstacle plus loin qu'il n'est réellement. Mais le déclin des abeilles et des insectes et la perte de biodiversité ne sont pas un problème pour l'avenir lointain.
Les rivières se vident déjà de leurs poissons, le ciel de ses oiseaux, les prairies de leurs fleurs.
La crise de la pollinisation a discrètement commencé. Tout cela n'est pas un problème pour nos petits-enfants, mais déjà le nôtre. En de rares occasions, l'érosion de la biodiversité en général et la disparition des insectes en particulier s'invitent dans les grands médias et la conversation publique. Mais il n'est alors question, la plupart du temps, que des conséquences prévisibles ou possibles du désastre en cours. On s'interroge sur les effets à venir de cet armageddon des invertébrés, beaucoup moins sur ses causes. De fait, une grande part des personnalités qui portent une parole publique sur le sujet citent pêle-mêle et souvent sans souci de hiérarchie l'extension de l'agriculture intensive, le changement de la politique agricole commune européenne, la fin des jachères, l'éclairage nocturne, l'arrivée d'espèces invasives, l'érosion de la diversité florale et des ressources nutritives des pollinisateurs, les parasites et les pathogènes naturels, le changement climatique, l'urbanisation galopante, la bétonisation des espaces naturels, les pesticides, la perte des habitats, le drainage des zones humides, etc. Ce discours produit un fatalisme déprimant et génère l'idée que l'extinction galopante des insectes est inévitable. Causée par tant de facteurs qu'il semble illusoire de vouloir arrêter ou même ralentir le processus. Les effets de cette vulgate sur notre psychologie collective sont l'accablement et la paralysie.
Mais que faire ? Par quoi commencer ?
Invariablement, nous sommes renvoyés à cette idée trompeuse que la fin des insectes est écrite, qu'elle est une sorte d'inexorable malédiction consubstantielle de notre existence même, une malédiction avec laquelle nous devons tenter de vivre ou de survivre. Et ce ne sera pas simple. Car poursuivre durablement des activités agricoles en l'absence d'invertébrés s'avérerait très compliqué et probablement impossible dans certaines situations. Il n'y a pourtant aucune malédiction, ni aucune fatalité. Un grand nombre de travaux scientifiques indiquent qu'une innovation majeure des firmes agrochimiques, intervenue dans le premier tiers des années 90, joue un rôle déterminant dans le phénomène mondial d'effondrement des insectes. Et il ne s'agit pas nécessairement des pesticides au sens général du terme. Cette innovation est double. Il s'agit d'une part de nouvelles générations d'insecticides à large spectre, parmi les plus puissants jamais conçus et synthétisés par l'homme, et d'autre part, de la généralisation de leur usage sous forme préventive et systémique. Cette famille de substances a été baptisée du nom imprononçable de...
néonicotinoïdes.
Oh, merci Lola. Car elles sont dérivées de la nicotine. Et on peut y adjoindre une autre molécule pourvue du même genre de propriétés neurotoxiques, le fipronil. Non seulement ces nouveaux produits sont les plus efficaces jamais synthétisés, mais certains d'entre eux sont utilisés en prophylaxie sur des millions d'hectares de grandes cultures.
Blé, maïs, soja, tournesol, colza, riz, etc.
Ces produits sont dits systémiques car ils pénètrent le système vasculaire des plantes traitées et se retrouvent ainsi dans tous leurs tissus, des racines aux feuilles, en passant par la tige, la fleur, le nectar et le pollen. Malgré une somme écrasante de faits désormais établis, les pouvoirs publics demeurent tétanisés, à peu près incapables d'agir. Et lorsqu'ils agissent, c'est par une politique de petits pas, incompatible avec l'urgence de la situation. Nos responsables politiques ne comprennent pas l'ampleur de ce qui est en train d'advenir. Ce qui est plus stupéfiant encore est qu'il ne s'agit pas d'éviter un désastre possible dans un avenir plus ou moins lointain, mais de ralentir la marche d'un désastre en cours, dont les signes sont déjà perceptibles par tout un chacun. À la notable exception de l'Europe, et en particulier de la France, où ces produits sont désormais théoriquement interdits depuis septembre 2018, ils demeurent utilisés à peu près partout dans le monde. Et même sur le vieux continent, ils restent protégés par des systèmes de dérogation. Ailleurs, il domine encore et largement le marché mondial des insecticides agricoles. Vous écoutez Les Décroissants tout chauds, vous êtes sur Radio B. Les jardins sont des cimetières. Au mi-temps des années 2010, du fond d'un jardin du sud-ouest de la France, une petite fille d'une dizaine d'années lance un cri.
« Papa, un ver luisant !»
Pour elle, comme pour nombre d'enfants nés au tournant du siècle, découvrir une luciole ou un hanneton, c'est toute une histoire. Cette surprise enfantine, devant des animaux aussi communs à notre souvenir, résume et incarne le naufrage d'une époque. Par quelque chose qui peut ressembler à de la culpabilité ou de la honte, ou peut-être simplement par bienveillance, le père ne dira pas à sa fille qu'à son âge, chacun de ses pas dans le même jardin faisait jaillir par vagues des dizaines de sauterelles ou de criquets. Qu'au même endroit, la profusion et la diversité des abeilles, des bourdons et des papillons, la course fugace des lézards et le bavardage des oiseaux lui offraient des heures de joie et de contemplation. Et que le soir venu, on voyait encore les lucioles se réunir autour des arbres. tout cela, c'est comme évaporé. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune idée de ce dont les deux générations précédentes, celles de leurs parents et de leurs grands-parents, les ont dépossédés. Par inattention et par négligence, par une accumulation de petites complicités et de compromissions, nous avons laissé un patrimoine irremplaçable s'étioler jusqu'à parfois disparaître. C'est aussi notre aveuglement et notre silence qui ont rendu le monde silencieux. Au lieu de se taire, et au lieu de taire pudiquement la catastrophe en cours, il faudrait au contraire la décrire, la raconter et la donner à voir, expliquer, rappeler sans relâche ce que nous avons perdu, ou plutôt ce qui a été dérobé à notre curiosité et notre intelligence, à nos regards et à ceux de nos enfants. Le risque est celui de l'oubli. En 2005, la biologiste Andrea Sanz Arroyo est allée à la rencontre de communautés de pêcheurs du golfe de Californie. Elle a questionné les jeunes et les vieux sur l'endroit qu'ils connaissent le mieux au monde, leur zone de pêche. Interrogés sur les ressources qu'ils exploitaient ou qu'ils avaient cessé d'exploiter, les plus jeunes de ces marins ne mentionnaient en moyenne que deux espèces disparues de la pêcherie. Les anciens en mentionnaient jusqu'à 11. Leurs fils n'avaient ni connaissance de cette richesse perdue, ni même conscience qu'une telle perte fût effectivement advenue.
Comment se soucier de ce qui a disparu de nos mémoires ?
Ceux qui auront 30 ans dans les années 2020 et qui deviendront agriculteurs, chercheurs, responsables d'administration publique, élus, salariés de firmes agrochimiques, n'auront pas connu le monde d'avant la généralisation des néoniques et la vertigineuse accélération du déclin de biodiversité qu'elle a entraîné. Sans mémoire, sans transmission, le risque est grand que l'usage déraisonnable que nous faisons des intrants de synthèse se poursuive. Bien sûr, les néoniques sont à leur crépuscule. À la fin des années 2010, la France et la petite province de Marinduk, aux Philippines, où l'on élève des papillons, ont interdit toute cette famille chimique. L'Union européenne a interdit les trois principaux, et d'autres pays suivront.
Le problème ne sera pas réglé pour autant. Il faudra de nombreuses années pour que ces produits s'effacent de l'environnement.
Et avant qu'ils ne disparaissent, ils seront remplacés par d'autres, sans doute tout aussi dangereux, adoubés par des systèmes de régulation des pesticides qui produisent un sentiment trompeur de contrôle et de sûreté. Sans révolution profonde et radicale des réglementations, le risque est grand que l'expérience en cours s'achève à plus ou moins brève échéance par la stérilisation de nos campagnes. Cette perspective peut faire sourire, mais peut-être ne faut-il pas oublier qu'à la fin des années 80, nul ne pouvait penser que dans une grande part des paysages d'Europe occidentale, la biomasse d'insectes volants allait s'effondrer de plus de 75% en un quart de siècle. Un désastre de cette magnitude était simplement impensable. Il était bien au-delà de l'imagination la plus débridée. Les tenants de l'agriculture industrielle assurent qu'il est impossible de nourrir le monde sans l'usage massif d'intrants qui précipitent l'effondrement de la vie. Cet argument peut être retourné. Comment nourrir le monde dans une nature éteinte, où le recyclage des nutriments dans les sols et la pollinisation ne sont plus assurés ? Vous écoutez Les Décroissants tout chaud, vous êtes sur Radio B.
Je vais vous lire deux paragraphes qui m'ont beaucoup intéressée et que j'ai trouvé dans le livre de Véronique Pélissier intitulé « Le livre du jardin ». L'utilisation de produits chimiques, engrais pour nourrir les plantes et pesticides, met notre avenir en péril en créant de graves déséquilibres dans notre environnement. Ils appauvrissent le sol en tuant les organismes qui y grouillent et tuent aussi les prédateurs des animaux nuisibles. Ces produits polluent nos ressources naturelles car une partie reste dans le sol après le traitement et est emportée par la pluie vers les rivières, les mers et nos sources d'eau potable. On les retrouve aussi dans notre alimentation. De plus, le simple fait de toucher ou d'inhaler ces produits est dangereux pour leur utilisateur. Les abeilles fabriquent le miel avec le nectar des fleurs qu'elle butine. Elle récolte aussi du pollen qu'elle stocke dans les rayons de leur ruche pour nourrir les larves, permettant ainsi la fécondation. Chacun a besoin des autres pour vivre. Sans les abeilles qui permettent aux plantes de faire les fruits que nous mangeons, nous n'existerions plus. Et maintenant, on écoute « Ainsi soit-il » d'Aldebert. Joyeux Noël à tous et à très bientôt sur Radio B.
On avait dans la vie d'avant des abeilles sur nos desserts et les journées sans écran. Pas de plastique à la mer, de la glace, des ours blancs, de la neige sur nos hivers. Wherever we look, the forest retreats, the coral is bleached by an endless sun. The ocean's so high, the jungles are quiet. Is it too late to say that nature's undone? Que s'est-il passé? Allez, rangeons nos mouchoirs. Écoutons la forêt pousser plutôt que les arbres choir. Tellement de cervelle, puisque l'on scie la branche sur laquelle on est assis. Lentement le temps passait, sans futile connexion, parfois même on s'ennuyait. I hear the birds singing out, come protect me if you care, if you dare. If we let our hearts beat louder, and if our voices get so much stronger.
We draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you.